at the knee.
I used to be an adventurer like you, and I took an arrow in the knee.
That loser didn't stand a chance!
You were almost a jibbled sandwich.
Hey, listen!
Heroes never die.
Caught one.
The edge of the universe and back. Endure and survive.
Killing you and giving you good advice aren't
nothing is true. Everything is permitted.
Do a barrel roll.
Oh, cool, you tie.
Well, this is a tomb. I'll make them feel at home.
This is my favorite store in the Citadel.
Objection!
This world is mine.
What did I say?
Wait, wait, wait. That's not how it happened.
Bonsoir à toutes et à tous, vous écoutez Une Heure et des Pixels, l'émission jeux vidéo de Radio Campus Paris, réalisée par l'association Pixel Up et produite grâce aux subventions de l'université Sorbonne Nouvelle. Je précise que nous enregistrons toujours en distanciel, mais deux nouveautés sont à souligner concernant la nouvelle saison de l'émission qui s'ouvre avec l'épisode de ce soir. Tout d'abord, nous serons dorénavant ensemble pour une heure et demie, et non plus seulement pour une heure. Et d'autre part, la composition de l'équipe a subi quelques bouleversements puisqu'Emeline, Lazare et Vincent ont laissé leur place à de nouvelles chroniqueuses. Mais avant de vous les présenter, j'aimerais accueillir notre invité du mois, qui est designer interactif, directeur créatif dans le domaine du jeu vidéo, mais aussi rédacteur en chef de Jour de Play, la très très chouette émission Twitch d'Arte consacrée aux jeux vidéo. Il s'agit évidemment de Cosmo Graphique. Salut Cosmo.
Hello, hello, salut tout le monde, merci de me recevoir, ça fait plaisir.
Bah merci beaucoup à toi d'avoir accepté notre invitation, sois le bienvenu, et bien sûr, n'hésite pas à intervenir quand tu le souhaites pour réagir aux différentes chroniques ou rebondir sur un sujet. Avant d'entrer dans le dur, on va faire un rapide petit tour de table pour vous présenter l'équipe. Et je vais commencer par un ancien, Alexandre. Salut Alex.
Hello.
Tu es technicien streaming de métier, mais aussi pour les associations Pixel Up et Infusion. Tu es également fraîchement diplômé du Master Cinéma et Audiovisuel de Paris 3. Et je rappelle que la saison précédente, tu t'occupais de la rubrique Actualité. Donc nos auditrices et auditeurs de la première heure te connaissent déjà. Mais depuis, tu as décidé de lâcher les actus, donc de quoi tu vas nous parler dans ta chronique cette année ?
Ouais Jean, t'as raison, j'ai décidé de lâcher les actus, faire un peu de changement, parce que c'est décidément la saison des changements pour une heure et des pixels, parce que je me retrouvais plus vraiment dans les news, qui étaient vraiment sur la fin. Pour moi, c'était l'occasion juste de vous recommander des sorties qui avaient piqué mon attention, et finalement, bah, c'est ce que je vais faire cette année. Chaque mois, je sélectionnerai une vidéo, un jeu, ou même si j'ai le courage de lire du texte sans image, un article, que j'aurais donc lu, vu, auquel j'aurais joué ou que j'aurais écouté. C'est l'occasion pour moi de vous parler de choses que j'aime vraiment, d'un amour masochiste, hein, comme Spelunky 2, ou simplement des petits coups de cœur de créateuristes de talent. Ça sera quelques minutes chaque mois où je vous presserai d'aller voir quelque chose que je trouve incroyable.
Eh ben écoute, on a hâte, merci beaucoup pour cette présentation. Passons maintenant aux nouvelles venues. Je vais commencer par Liz, salut à toi et bienvenue dans l'équipe.
Salut, ravi de vous rejoindre cette année.
C'est avec plaisir. Liz, tu es vidéaste, on peut trouver tes productions sur ta chaîne YouTube Liz Sombre Ciel, que tu animes depuis 2018. Tu y présentes et analyses des jeux vidéo qui t'ont touché ou qui t'ont inspiré des réflexions sur le médium, mais tu parles aussi parfois de cinéma, de séries, et tu fais très régulièrement des bilans de tes nombreuses lectures qui mêlent romans, essais et même poésie. À titre personnel, je recommanderais même aux personnes qui voudraient découvrir ton travail de regarder la vidéo que tu as consacrée à l'écriture du personnage de Cassandra dans Assassin's Creed Odyssey, une vidéo que je trouve vraiment d'une grande qualité. Voilà, c'est mon avis perso. Bref, Liz, qu'est-ce que tu vas, toi, nous proposer cette année comme chronique ?
Dans ma chronique, donc, je vais essayer de lier deux thématiques qui me tiennent à cœur et dont je parle déjà sur ma chaîne, donc le jeu vidéo et les livres, en cherchant un peu les influences littéraires qu'on peut trouver dans le jeu vidéo. Par exemple, je vais chercher un peu à vous parler de jeux qui ont été adaptés de romans ou de bandes dessinées, ou encore je vais essayer d'expliquer peut-être comment certains jeux s'inspirent ou reprennent des codes d'un genre littéraire, voire même l'univers ou l'ambiance d'une autrice ou d'un auteur en particulier.
Merci beaucoup, j'ai hâte d'entendre ce que tu vas nous proposer. Et enfin, nous accueillons également dans l'équipe H. H, salut à toi et bienvenue parmi nous.
Salut, ravi d'être là.
H, toi tu es programmeuse gameplay, tu es syndiquée chez Solidaire Informatique, tu t'inscris intellectuellement et politiquement dans le féminisme matérialiste et lesbien, tu dis d'ailleurs te rapprocher du NPA, le nouveau parti anticapitaliste, et enfin tu t'investis dans le militantisme puisque tu as notamment participé à l'organisation de la marche lesbienne d'avril 2021. Est-ce que tu pourrais nous présenter à ton tour le concept de ta chronique ?
En gros, il y a eu ces dernières années un sursaut de conscience sur les différentes dominations dans notre société, et en particulier autour du jeu vidéo, et avec le Gamergate. On est de plus en plus conscient de ces différentes oppressions, mais on n'a pas les outils pour les défaire, on a l'impression qu'ils se dérobent devant nous. Et en tant que syndicaliste et un peu militante, je vois un truc dans toutes ces discussions. Il y a souvent une grosse rupture entre, d'un côté, la déconstruction des stéréotypes dans les représentations, et de l'autre côté, les réalités sociales et les luttes. Or, justement, c'est dans le lien entre les deux qu'on comprend comment ces stéréotypes, comment ces dominations se font et comment les défaire. Et je pense que c'est là qu'on perd ces moyens d'action, quand on perd ce lien. Le but de ma chronique, ce sera donc un peu de retisser ces liens, de comprendre ces dominations et de récupérer aussi ces moyens d'action.
Je te remercie et je pense que tu auras en effet beaucoup, beaucoup à dire puisque beaucoup de dossiers concernant ces questions de stéréotypes et de domination sortent depuis maintenant quelques temps dans le, par rapport au milieu du jeu vidéo. En ce qui me concerne, pour en finir avec la présentation, je suis Jean, je parle d'histoire de l'art et de jeux vidéo sur YouTube et sur Twitter. Ma chronique de la saison dernière a été consacrée au récit de mes souvenirs vidéoludiques et cette année, j'aurai le plaisir d'animer l'entretien avec nos invités. Je précise pour terminer que nous faisons cet épisode de rentrée à 4, sans compter notre invité du jour bien sûr, mais que nous aurons par la suite des chroniqueuses trimestrielles qui se joindront à nous à tour de rôle et on vous les présentera bien sûr lors de leurs premières émissions. Sans plus attendre, entrons à présent dans le vif du sujet. Lys va ouvrir le bal, puis ce sera au tour d'Alexandre. Après ça, je discuterai avec Cosmo de ses différents projets concernant le jeu vidéo. Ensuite, nous entendrons la chronique de H, et l'émission se conclura sur notre classique blind test, que cette année, nous organiserons à tour de rôle, et ce mois-ci, c'est Lys qui s'y colle. Lys, tu vas ouvrir et clore cette émission, je te laisse donc la parole pour ta chronique.
Merci. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous parler du jeu Child of Light et de comment il s'inspire du conte. C'est un jeu de type RPG qui est sorti en 2014 et qui est développé par Ubisoft Montréal. On y incarne la jeune Aurora, fille d'un duc qui meurt de froid pendant une nuit d'hiver, et pourtant elle reprend vie en s'éveillant dans un étrange monde baigné dans l'obscurité, le pays de Lemuria. Guidée par une sphère de lumière, elle commence à parcourir cet endroit et est bientôt épaulée par d'autres personnages qui la rejoignent au cours de l'aventure. Pour retourner dans son monde et ainsi retrouver son père, Aurora part à la recherche d'astres disparus, dérobés par la mystérieuse Reine de la Nuit. Rien qu'avec cette petite introduction, Child of Light évoque immédiatement un univers particulier, celui du conte de fées. Alors qu'est-ce qu'un conte ? C'est un récit court, traditionnellement transmis à l'oral, qui plus tard a commencé à être transposé à l'écrit. Il met en scène des héros ou des héroïnes qui sont confrontés à diverses épreuves. Ce sont souvent des personnages inexpérimentés au début de l'action, des enfants par exemple, et toutes les péripéties qui leur permettent de trouver leur voie, de suivre, en quelque sorte, une quête initiatique. Ainsi, les contes ont souvent une valeur éducative, didactique, ils s'attachent à transmettre certaines valeurs morales, le courage, la ruse ou la sagesse. Par exemple, dans La Belle et la Bête de Madame le Prince de Beaumont, la gentillesse, l'empathie de Belle pour la bête, lui permet de la sauver de lever le sortilège. Dans Child of Light, on retrouve bien cette idée-là, Aurora est une petite fille qui va littéralement grandir pendant l'aventure. On l'incarne d'abord enfant, puis en tant que jeune femme. Sa quête initiale consiste à retrouver son père et son pays, mais elle va se lier avec différents peuples du pays de Lemuria, les aider, et finalement comprendre qu'elle n'est autre que l'héritière du trône, et qu'en tant que telle, son rôle est avant tout de servir l'intérêt général de son peuple, plutôt que de simplement sauver son père. Au sein du conte, on trouve plusieurs sous-genres, et je ne vais m'attarder ici que sur l'un des plus connus, le conte de fées ou conte merveilleux. C'est un genre qui fleurit au XVIIIe, sous la plume de Madame d'Aulnoy ou encore de Charles Perrault par exemple. Ici interviennent des éléments surnaturels, féeriques, des sorcières, des magiciens ou des dragons. Child of Light se rapproche donc du conte merveilleux puisqu'on y trouve bien un univers avec des créatures surnaturelles, des golems, des gargouilles, des spectres. Les personnages ont des pouvoirs magiques qui sont d'ailleurs un élément de gameplay essentiel puisqu'on utilise ces pouvoirs pour combattre et qu'on les développe dans un arbre de compétences associées. Le conte merveilleux peut être destiné aux enfants, il est très manichéen de par ses personnages facilement identifiables comme étant bons ou mauvais. Aurora est associée à la lumière et elle doit vaincre la reine de la nuit associée aux ténèbres. Les personnages de conte sont généralement simplifiés et ramenés à une fonction symbolique. Dans le jeu, les personnages sont clairement identifiés avec des caractéristiques visuelles et avec leur gameplay qui reflètent leur personnalité. Aurora porte une robe blanche, elle combat avec une épée et une magie de lumière qui éblouit les ennemis. On a aussi le personnage de Rubella qui est un clown joyeux, elle attaque avec des acrobaties et elle soigne. La couleur rouge dont elle se pare rappelle le sang, la vie. On note aussi que la structure narrative du jeu se superpose aisément à celle du conte. On a d'abord une situation initiale avec Aurora qui vit avec son père, puis un élément perturbateur, Aurora meurt, passe dans un autre monde et doit retrouver son père. Et ces deux premières étapes, elles sont transcrites via les cinématiques d'introduction du jeu, la prise en main réelle, l'arrivée du joueur, de la joueuse ne commence qu'après. Child of Light nous propose de jouer les péripéties, l'aventure et le cheminement d'Aurora à travers des combats, des mini-puzzles pour ouvrir des portes ou des phases de plateforme, jusqu'à trouver l'élément de résolution qui consiste ici à vaincre le boss final, la Reine de la Nuit. La fin du jeu nous est également montrée sous la forme d'une cinématique, avec la situation finale, Aurora sauve son peuple et devient Reine de Lemuria. Il y a encore beaucoup de choses à dire sur les liens entre le conte et Child of Light, mais l'heure avance et je dois conclure. Malgré tout un ensemble de codes repris et d'inspirations évidentes, les créateuristes du jeu ont fait un choix loin d'être anodin qui s'émancipe du conte traditionnel. En effet, Aurora est une princesse qui devient une reine, mais il n'est à aucun moment question d'un quelconque prince, roi ou d'un mariage. Aurora s'accomplit seule, elle n'attend pas les autres pour résoudre les problèmes. D'ailleurs, tous les personnages principaux du jeu sont féminins. C'est un choix qui est revendiqué dans une interview par les créatrices du jeu qui évoquaient aussi les difficultés qu'elles ont eues à imposer un personnage féminin comme personnage principal. On voit donc tout l'intérêt de se réapproprier un genre littéraire traditionnel pour l'adapter avec des thématiques plus actuelles.
Merci à toi Alice pour cette chronique. Qui ici a fait Child of Light ?
Alors je crois que j'ai commencé, c'est bien le Child of Light, c'est bien le jeu qui est écrit en alexandrin, c'est ça ?
Ouais. Exactement.
Ouais, c'est bien. En fait, j'avais commencé et même si c'est, enfin, c'est un jeu qui est extrêmement beau et effectivement très très poétique et super agréable à regarder. Mais pour le coup, à jouer, en fait, j'ai pas réussi à rentrer dans cette écriture poétique justement des dialogues. Et c'est vrai que je l'ai pas fini. Désolé.
T'excuses pas auprès de nous, hein.
Moi, je l'ai pas fait, mais je sais que c'était un des jeux qui était fait avec le UbiArt Framework.
Exactement, ouais.
Avec le soldat, le jeu sur les soldats de la Première Guerre mondiale aussi. Et c'était censé être d'ailleurs un moteur qui était censé devenir open source à un moment donné, il me semble, et qui a jamais été dévoilé au grand public au final. Mais il y a eu que deux jeux avec.
Maintenant que tu le soulignes, c'est vrai que les animations me rappellent quelque chose. Enfin, sur la cette 2D si particulière se retrouve en effet d'un jeu à l'autre. J'avais pas fait le rapprochement entre les deux.
Il était hérité de Ubi, enfin c'était le studio de Montpellier qui était derrière Rayman, je crois, si je dis pas de bêtises, qui avait fait un moteur maison et ils avaient fait ensuite pas mal de promos autour de ce moteur. Ils avaient montré des images avec des aquarelles qui étaient en fait les artworks de Child of Light et quelques mois après, c'était un projet Ubisoft qui était annoncé à l'E3, je crois. Mais ils en font plus des comme ça, je crois. Un peu dommage. Pardon, je faisais une parenthèse technique sur le moteur.
Non, mais
c'est super intéressant, on est friand
de ce genre de détails, donc surtout n'hésite pas. C'est vrai que le côté visuel en plus du jeu est extrêmement intéressant, qui se rapproche lui aussi du conte dans le sens où j'avais vu il y a une interview des développeurs et développeuses sur YouTube sur une sorte de making of où ils expliquent les inspirations qui sont allées puiser en termes de visuel, et ils sont allés piocher dans des illustrateurs de contes de fées du début du XXe siècle, toute fin du XIXe siècle, et on retrouve vraiment voilà ce côté aquarelle dont tu parlais, Cosmo, dans ces illustrations, et la filiation est vraiment flagrante quand on met les deux en parallèle, donc je pense que aussi bien dans l'écriture que visuellement, le rapport au conte de fées est assez marquant, en effet. Merci encore Lys pour cette chronique et il est temps à présent de laisser le micro à Alex pour sa première reco de la saison.
Oui, merci Jean, et pour cette première recommandation de la saison, j'ai envie de vous donner quelque chose qui va pouvoir vous occuper pendant toute l'année et qui n'est pas un JRPG. Il s'agit de la chaîne YouTube de Polygon. Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas Polygon, il s'agit d'un très gros site américain traitant du jeu vidéo, aux côtés par exemple de Kotaku ou de Rock Paper Shotgun. Mais là où Polygon se distingue, pour moi, c'est bien dans l'existence de leur chaîne YouTube, connue notamment pour l'émission Unraveled de Brian David Gilbert, où il répondait chaque mois à une question qui brûlait les lèvres de quasiment tous les joueurs et joueuses. Quel boss de Dark Souls serait le meilleur manager ? Quand est-ce que Mario pourra prendre sa retraite ? Ou encore, comment différencier les 596 personnages de Fire Emblem. Vous commencez déjà à cerner la ligne édito de cette chaîne YouTube, et moi j'arrive doucement là où je veux aller. Une vidéo publiée le 19 août dernier, présentée par Simone de Rochefort, ça ne s'invente pas, et intitulée « Les jeux français étaient bizarres ». Il s'agit dans cette vidéo de revenir à l'origine des jeux vidéo en France, pour se rendre compte qu'à une certaine époque, on faisait des jeux politiques et on ne s'en cachait pas. Pas de chichi, on ne jouait pas un hacker terroriste ni une escouade antiterroriste dans des jeux marketés non politiques, et vous ne voyez pas mes guillemets avec les doigts. Non, non, non. Là, on parle de jeux ouvertement sociaux. Simone de Rochefort, elle revient sur les jeux de Froggy Software. Et si je commence par vous dire que Froggy Software, c'était une équipe de 68 arts qui faisait du jeu vidéo, ça devrait quand même vous poser le décor tout de suite. Entre des jeux où ça parle de faire sauter le mur de Berlin et d'autres typiquement français et parisiens comme Baratin Blues, qui était une satire de Chirac, oui, celui-là, dans ses volontés de privatiser la gestion de l'eau parisienne, et ça n'est qu'une des infos incroyables que vous apprendrez dans cette vidéo dont je ne vais pas vous spoiler tout le contenu. Allez regarder tout ce que fait Polygon côté vidéo, c'est en anglais mais des sous-titres français sont disponibles, et c'est de très très bonne qualité. Et ça vous fera bien sûr briller en société, parce que qui n'aime pas avoir des anecdotes aussi spécifiques sur le jeu vidéo français près 2000 ? Bien sûr, le choix de cette vidéo n'est pas anodin, puisque je sais que Cosmo a fait une émission de jour de play avec la pionnière du JV français Muriel Tramis, et c'est aussi l'occasion d'en apprendre plus sur vous toutes et tous en vous demandant c'est quoi votre histoire à vous avec le jeu vidéo français ? C'est quoi vos anecdotes ? Est-ce que vous étiez Adibou et Rayman ? Ou est-ce que vous étiez full jeu japonais ? Je sais que Jean adore le jeu japonais.
Je ne répondrai pas à cette attaque et je laisserai mes collègues parler avant moi. Voilà.
Clairement, Team Adibou et Rayman et Beyond Good and Evil aussi.
C'est fou parce que c'est vrai que je rencontre énormément de gens qui ont grandi avec Adibou, Rayman et BGE. D'ailleurs, c'est vrai que c'est un jeu qui revient souvent. Et personnellement, j'ai pas du tout cette culture du jeu vidéo français. Donc ça me semble toujours j'ai toujours l'impression d'être un peu en dehors. Et c'est pour ça que l'histoire du jeu vidéo français avec vous, votre histoire, ça m'intéresse pas mal. Votre rapport avec le jeu vidéo français.
Moi, il y a eu un passage à Dibou, mais c'est parce que j'avais des petits frères à l'époque qui, on avait un ordinateur à la maison et il fallait tout s'occuper. Donc, comme j'avais pas eu de jeux vidéo quand j'étais petit ni de console à la maison, j'ai découvert un peu tard avec la famille. Moi, il y avait un jeu comme ça qui m'avait marqué, c'était Croisade. C'est un jeu qui était édité comme ça par une boîte française. Je sais même plus avec qui, le nom un peu obscur, mais c'était peut-être avec Canal+ ou France Télécom. Mais c'était vraiment le début des logiciels interactifs, un peu dans la lignée des Versailles. Vous avez sûrement dû y passer, peut-être.
Ouais, complètement.
Ok, c'était dans la lignée. C'était ce genre de jeu qui était censé vous donner un peu un côté éducatif. Peut-être que ça m'a marqué d'ailleurs.
Ash, tu allais évoquer ta propre expérience.
Ouais, pareil, j'ai pas mal grandi avec Adibou, Adi, Rayman, sans savoir vraiment que c'était français, juste parce que c'était très mis en avant. Et même Toboclic et Mobiclic, mais je sais pas si ça évoquera quelque chose pour grand monde.
Si, je connais.
Qui était aussi pareil. C'est ça, c'était des il me semble que c'était des mensuels, et c'était des mensuels avec un petit CD et des petits logiciels, des petits bouts interactifs, etc. Et oui, en plus, ouais, j'avais un peu hurlé sur cette vidéo à l'époque parce qu'elle était, dans le sens qu'elle était vraiment cool et que je trouvais ça aussi intéressant sur le pan de l'effacement d'une certaine partie de l'histoire, que ce soit Muriel Tramis ou les 68 arts dont tu parlais, qu'on ne célèbre vraiment plus aujourd'hui, et dont toute la dimension politique a été, et dont tout le travail politique, surtout ouvertement politique, a été vachement effacé et très peu reconnu dans les histoires du jeu vidéo, qu'on voit au musée, etc., qu'on voit les plus mises en avant. Après, j'ai pas lu le bouquin qui était sorti récemment sur l'histoire du jeu vidéo en France, et justement, j'étais très curieuse de ça. Donc voilà.
Ouais, j'allais en toucher un mot du coup, parce qu'effectivement je l'ai pas lu non plus, mais si auditeur, auditrice, vous voulez pousser un peu l'histoire du jeu vidéo en France et l'histoire du jeu vidéo français, il y a effectivement ce bouquin d'Alexis Blanchet qui est sorti l'année dernière, si je me rappelle bien, qui s'appelle L'histoire du jeu vidéo en France, qui est édité chez Pix & Love. Ici à Une Heure et des Pixels, on a un peu une certaine relation avec Alexis Blanchet. Enfin, moi, personnellement, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, donc je peux que vous recommander son travail de recherche. Voilà.
Alors, je ne peux que valider, du coup, cette recommandation de la part d'Alexandre. Et moi, côté premier souvenir du jeu vidéo français, j'ai eu Adibou aussi. Enfin, j'ai eu Adibou. Je crois que c'est ma sœur qui l'avait, ma petite sœur. Mais moi, je lui piquais pour jouer juste au jeu où tu fais des gâteaux, là. Dans la maison.
Je faisais exactement pareil.
Voilà, c'est ça.
Les gâteaux, tu faisais les pires pour les donner à l'espèce d'ogre chelou qui venait à la fête.
Ouais, c'est ça, exactement. Et après, j'ai eu un truc, c'était le côté un peu bobo de mes parents. J'ai eu les albums de l'oncle Ernest.
Ah oui, je connais.
Et je sais pas si jamais ça vous évoque quelque chose. Et c'était fascinant. Et j'ai passé des heures et des heures à jouer à ces jeux. C'était juste tellement joli et tellement cool, c'était une sorte de truc un peu à mi-chemin entre le jeu vidéo et le pas l'éducatif, mais c'était vraiment hyper chouette. Donc si jamais vous connaissez pas, si jamais ça vous dit rien, je pense que le jeu, ça va être compliqué de les faire tourner maintenant sur nos bécanes actuelles, mais il y a certainement des vidéos YouTube qui pourront vous donner un aperçu de ce que c'était, et ça a été un petit peu mon premier souvenir marquant de jeux vidéo français, quoi. À part Lys, il y a quelqu'un qui connaissait les albums de l'oncle Ernest ou pas ?
Moi, j'étais un petit peu plus trop grand pour y avoir joué, mais je sais que tous mes cousins et cousines en dessous de moi étaient passés dessus parce que c'était sur le Mac de la grand-mère qui avait un Macintosh et aussi une console de jeu pour pouvoir faire en sorte que tous ses petits-enfants viennent à la maison. Et elle avait compris qu'en investissant dans un Mac à la fois pour elle, pour le boulot, parce qu'elle écrivait, et elle avait compris qu'en installant l'oncle Ernest, il y allait avoir du monde tous les week-ends. Donc j'ai vu ça tourner de près, et puis j'ai aussi un peu vu justement le créateur Eric Bieno qui est il n'y a pas longtemps qui me disait aussi qu'il j'avais posé la question si c'était possible de faire un remaster, tu vois, que le jeu ressorte avec des meilleurs graphismes et tout. Mais en fait, le jeu a été fait à l'époque avec les graphismes de qualité maximale qu'on avait à l'époque aussi. Et donc, toutes les résolutions des visuels sont d'époque. Donc, en fait, aujourd'hui, pour les upscaler, c'est plus du tout possible, quoi. Il faudrait tout refaire à la base, quoi. Enfin, il me racontait que c'était un peu une charge de boulot immense, mais juste déjà des vidéos et essayer de comprendre qu'il y avait un peu un côté émerveillement, il y avait pas mal de petites choses magiques et tout qui se passait dans tout ça. C'était ça qui était chouette. J'avais l'impression que c'était, j'y ai pas joué, mais c'est un logiciel ou un jeu éducatif, une sorte de qui te permettait de cliquer partout, de soulever des pages. Il y avait des animations dans tous les sens. C'était assez ouf pour l'époque, je pense.
Ouais, c'était très riche visuellement. C'était assez, il y avait un émerveillement qui se dégageait du. Du jeu. Enfin, en tout cas, moi, petit, ça me fascinait beaucoup, quoi. Merci Alex pour cette chronique et cette recommandation. On ira voir cette vidéo de Polygon et je suis assez intrigué, du coup, par leur chaîne YouTube, sachant que je savais pas du tout, en fait, qu'ils avaient monté une chaîne. Donc j'irai voir ça avec intérêt. Merci à toi. Et avant de retrouver Cosmo pour l'entretien, je vous propose une petite pause musicale. On écoute The Woodlands, composé par Yasunori Nishiki pour Octopath Traveler, sorti en 2018. Bonne écoute. Vous écoutez Une heure et des pixels sur Radio Campus Paris et il est à présent l'heure de retrouver notre invité du mois, Cosmographique, pour notre entretien.
Salut.
Alors avant de parler de jours de play, j'aimerais qu'on aborde d'abord ton travail de game director et de game designer. Et question toute simple, en guise d'intro, comment tu en es venu à travailler dans le jeu vidéo, puisqu'à l'origine, tu as une formation en design et en communication graphique. Qu'est-ce qui t'a ensuite incité à t'orienter vers le jeu vidéo en reprenant une formation, alors que tu avais déjà commencé ta vie professionnelle et commencé à travailler en tant que graphiste et motion designer?
Alors, j'étais motion designer en agence, ceci explique peut-être cela, mais il y a quand même un long process avant. Pourquoi le jeu vidéo? En fait, il y a eu plusieurs étapes. En fait, déjà, j'ai pas eu beaucoup de jeux vidéo quand j'étais jeune. Enfin, j'en avais chez les voisins et les voisines, mais il y avait pas vraiment de ça à la maison, donc j'ai attendu assez longtemps avant d'en avoir, genre vers 13-15 ans. Et c'est seulement, je pense, pendant mes études où je me suis dit, ok, est-ce que je fais du graphisme, est-ce que je fais de la musique ou je sais pas quoi, que je me suis retrouvé un peu par hasard en imprimerie à l'école Estienne. Et en parallèle de ça, j'ai commencé moi à bidouiller avec la suite Adobe que j'avais récupérée, qui me permettait de faire du Flash. Il y avait déjà des sites qui permettaient de télécharger des sources de jeux Flash, de les modifier et compagnie. Donc je commençais à bidouiller un peu avec des logiciels comme ça. Unity commençait à peine, je pense. Unity 3D qui est un moteur de jeu qui cartonne aujourd'hui. Donc le jeu vidéo, je me suis mis en fait à la sortie des études. Je commençais à avoir des idées de jeux que j'aurais aimé faire, mais j'avais pas les moyens, je savais pas les développer, j'étais pas un codeur du tout. Donc j'ai attendu, j'ai fait les études de graphisme dont on a parlé, j'ai commencé à bosser en agence. Et à partir de là, je me suis rendu compte que j'avais du temps libre, que je pouvais commencer à faire des projets perso. On va dire avec des copains et des genre, vous avez entendu parler des webdocs peut-être, des web documentaires, qui étaient en gros des formats web mi-documentaires un peu interactifs qui s'inspiraient d'ailleurs du jeu vidéo, qui prenaient pas mal de codes, notamment les maps et les trucs comme ça. En fait, en faisant des projets comme ça annexes de mon boulot, j'ai commencé à faire de l'interactif, et par là j'ai commencé à fréquenter des gens qui commençaient à produire de l'interactif en France. Donc c'était les débuts du web documentaire avec Arte, avec France Télévisions et compagnie. Et je me suis lancé là-dedans avec le premier jeu Typewriter dont on parlera. Mais c'est un long process, ouais. C'était plus que j'avais envie de décortiquer comment ça se passait à l'intérieur. J'aimais beaucoup les documentaires sur la fabrication des jeux vidéo. Quand il y avait Indie Game The Movie qui est sorti, il y avait quand même pas mal de... Enfin, ça me parlait, quoi. Il y avait pas mal de choses qui résonnaient. Et puis quand j'ai repris les études, c'était le moment où Limbo, je crois, sortait. Pour plus ou moins situer le passage.
Et oui, donc en fait, oui, voilà, c'est pas quelque chose qui t'est venu soudainement. T'as commencé déjà à bricoler et à t'auto-former, en fait, et t'as validé ça par une formation plus institutionnelle par la suite, quoi.
Ouais, c'est ça. La formation, c'était une sorte de formation accélérée en un an. On était la première promo, donc on avait un peu essuyé les plates, mais c'était hyper cool parce qu'on était déjà, on était avec d'autres étudiants qui avaient pas mal de background, à la fois des devs, à la fois des créatifs. Et on était aussi amené à fréquenter, à côtoyer comme ça des producteurs ou des diffuseurs type Arte. Et Arte, en fait, ils étaient déjà en train de se poser des questions sur le jeu vidéo à ce moment-là. Et ils ont vu Typewriter, qui était un projet étudiant que j'avais ramené dans cette formation, que j'avais déjà en tête depuis peut-être 5-6 ans, mais que je ne pouvais pas faire tout seul. Et à ce moment-là, quand Arte est rentré dans la boucle, on a un peu commencé à aborder la question du documentaire avec eux, les questions du gameplay. C'était la période du mobile aussi, où tout se lançait sur iOS. Donc... eux, ils voulaient être sur le terrain du mobile aussi, donc ça s'est bien coupé en fait.
On va reparler d'Arte juste après, parce qu'en effet, ils jouent un rôle important dans beaucoup de tes projets. Mais avant ça, du coup, tu as évoqué ton premier jeu, Typewriter, pour lequel tu es connu, et ton deuxième jeu aussi, qui s'appelle Vandals. Le premier, donc Typewriter, c'est un jeu de plateforme qui retrace l'histoire de l'écriture, de la presse et surtout de la typographie. Et le second, Vandal, c'est une sorte de puzzle game tactical qui rend hommage au street art. Donc on sent évidemment le lien avec ta formation professionnelle, tu l'évoquais juste avant, puisque ce sont des thématiques qui touchent au domaine du design et du graphisme. Mais pourquoi spécifiquement le médium du jeu vidéo, tu penses, te semblait le plus judicieux pour parler de ces sujets? Et pourquoi en faire des jeux vidéo et pas justement, comme tu l'évoquais, peut-être un web documentaire ou même carrément un docu plus classique ou même un bouquin? Pourquoi le jeu vidéo pour parler de ces thématiques?
Parce que c'est cool. Le
jeu vidéo, c'est excellente cool. Réponse, enfin, merci.
À la base, c'était, j'avais déjà envie de... Enfin, je commençais à bidouiller les logiciels, donc je me disais, ok, comment on fait un jeu vidéo, c'est quoi? J'essayais de regarder des trucs sur des blogs et tout. Il n'y avait pas encore tout l'écosystème Twitter que tu peux voir aujourd'hui. Pourquoi le jeu vidéo ? Bah, pourquoi ces sujets-là en jeu vidéo ? C'est à la fois, ok, le jeu vidéo, c'est un moyen hyper cool de pouvoir s'approcher au mieux d'un sujet. C'est toujours une gimmick, c'est toujours du faux, mais au moins tu peux essayer de faire vraiment référence à des trucs très très précis, et notamment dans Type Rider, nous on était hyper intéressés. Enfin, j'aimais beaucoup l'idée de pouvoir rider les lettres, de pouvoir avancer dessus et tout ça, mais disons que ça tombait bien, cette idée qu'il y a des grandes lettres sur lesquelles on roule, parce que moi au tout début de Type Rider, en fait, le proto, c'était juste deux roues de moto dont j'avais enlevé la carcasse, c'était un jeu flash, hein. Et en fait, donc tu pouvais trimballer les roues partout, mais il n'y avait pas encore les lettres. Et c'est seulement en bidouillant, je me suis rendu compte que tu pouvais installer des lettres dans Flash, c'était assez simple de pouvoir faire du vectoriel, de les déposer. Et c'est seulement quand Arte est arrivé qu'on a commencé à creuser le côté chronologique et le côté documentaire. Et donc c'est pour ça que dans Type Rider, t'as un livre. Donc c'était ça aussi faisait très référence au web documentaire que je faisais avant avec des copains et tout. C'était tout ça dans un but très didactique et d'accessibilité. C'était un peu mal fait aussi, hein. Tu verras, c'est des grandes fiches de lecture un peu indigestes, hein, mais il y avait quand même cette volonté-là. Donc c'était, c'était un truc un peu hybride à la base. Et pour le deuxième, Vandals, pourquoi un tactical d'infiltration au tour par tour ? Le jeu n'était pas pensé comme ça exactement au début. C'était une idée que j'avais depuis longtemps. Je ne sais pas si vous avez joué à un RTS qui s'appelle Commando. Commando derrière les lignes ennemies, qui était un jeu PC comme ça, où tu avais genre une petite escouade et il fallait infiltrer des lignes allemandes en vue aérienne. Et en fait, je crois que comme moi, à côté, je m'intéressais au graffiti, au street art, je m'étais fait un peu des projections de dire, ok, à quoi ça pourrait ressembler ce genre de jeu, mais dans l'univers du graffiti, où tu fais des infiltrations dans des hangars, où tu vas comme ça essayer de récupérer des spots de peinture les plus cool possibles. Donc j'avais fait même des maquettes Photoshop en prenant des screens du jeu, enfin, tu vois, des trucs marrants. Et quand Arte avait vu le succès de Type Rider, il m'avait peut-être demandé, enfin, mon producteur m'avait dit, ok, est-ce que tu veux peut-être en proposer un deuxième ? J'avais proposé le jeu tel quel, il avait plus ou moins été validé comme ça, mais c'était pas encore très clair sur quelle plateforme il voulait aller. Et en fait, à un moment donné, on a switché pour aller vers le mobile. Donc, on a cuté cette idée d'avoir un jeu stratégique en temps réel avec des personnages, un gameplay à la souris, pour passer sur un gameplay vachement plus simple, hein, qui était le gameplay de Hitman Go qui était sorti quelques années avant. Donc, l'histoire du projet a un peu évolué comme ça. Enfin, là, c'est le gameplay du projet qui a un peu évolué. Et puis, au moment du développement, comme il y avait Arte dans la boucle, on a quand même rajouté le côté historique. Donc, dans le jeu, tu collectes des petites informations qui sont disséminées dans les murs du jeu, où on a intégré des vraies œuvres d'artistes de toutes les villes que tu visites. Donc, il y a quand même, tu vois, tout ça fait sens parce qu'il y a Arte dans la boucle et c'est assez important aussi, je pense, dans le modèle d'écriture que j'ai adopté.
Là, du coup, tu as en partie répondu à la question que j'allais te poser par rapport à Arte. À quel point, comment dire, vu qu'ils ont tous les deux été coproduits par Arte, ces deux jeux, Type Rider et Vandals, quel impact ça a pu avoir sur le développement de tes jeux, même si jamais tu as déjà évoqué un ou deux éléments. Je pose la question parce que tu évoquais cette dimension assez documentaire de ces jeux. Est-ce que c'est quelque chose que tu pouvais avoir déjà en tête à l'origine, sur lesquels tu te posais la question, est-ce que ça te tenait déjà à cœur, ou vraiment c'est arrivé plus tardivement en dialogue avec Arte pour que ça colle à leur ligne éditoriale, vu que c'était aussi leur premier jeu. Type Rider, c'est vraiment le tout premier jeu qui a été coproduit par Arte, c'est comme ça qu'ils se sont lancés. Donc du coup, est-ce qu'ils voulaient vraiment rester associés un petit peu à cette image un peu, disons, culturelle, documentaire de leur...
Je dirais qu'il n'y a pas vraiment une sorte de... Tu vois, de moule dans lequel il faut rentrer pour pouvoir faire un jeu chez Arte, parce que depuis ils ont sorti plein de jeux où justement l'aspect documentaire il est vachement moins poussé que dans les miens. Je suis peut-être même le meilleur bon élève dans s'il y avait une catégorie des jeux type Arte, peut-être que, parce que moi j'ai des fiches dans les miens, tu vois. Oui. Mais après non, je pense que c'est aussi hérité de tout mon background. J'aime beaucoup l'histoire, j'aime beaucoup les livres en général. J'ai fait une école d'imprimerie, donc t'as quand même un côté auquel le soin de l'image, le fait d'avoir des trucs qui s'affichent bien sur l'écran, enfin je sais pas, il y a tout un truc qui me dit, ok, le jeu vidéo te permet quand même d'être dans un mood où t'as peut-être envie de lire, t'as peut-être envie d'apprendre des choses, t'as peut-être envie de te mettre dans une ambiance qui te rappelle un truc de la vie réelle. Donc c'est le bon endroit pour venir distiller comme ça des informations, du documentaire ou même de la poésie, enfin ce qu'on veut, quoi.
En plus, c'est assez bien foutu d'un point de vue du game design, parce que du coup, j'ai refait les deux jeux dans les semaines qui ont précédé notre émission, et c'est qu'en plus, chaque petite pastille documentaire qu'on a dans ce bouquin, dans Type Rider ou dans l'album un peu photo de Vandals, c'est lié à un collectibles, en fait, et c'est un petit succès à débloquer, faut aller le chercher, faut le trouver, ou faire le bon move pour l'avoir, et du coup, une fois qu'on obtient ce collectibles, le contenu documentaire arrive comme une récompense, on est peut-être du coup d'autant plus enclin à se pencher dessus, quoi.
Ouais, on avait même mis un achievement dans Type Raider quand il est sorti, genre, si t'arrives à lire toutes les pages du livre... Donc tu débloques tous les collectibles, donc toutes les pages, toutes les astérix qui sont cachées dans le jeu, et que tu lis toutes les pages, tu débloques l'achievement, je sais plus comment il s'appelait, mais on avait fait des blagues là-dessus aussi. Mmh. Mais après, on a essayé de réduire ça sur Vandals, on a mis un petit peu moins de texte, et on a aussi essayé d'intégrer les œuvres comme on pouvait, parce que comme c'est une vue aérienne, c'était pas forcément évident de mettre l'emphase sur les œuvres comme ça. Mmh. Alors que dans Type Raider, c'était très pratique ce côté freeze. En fait, Type Raider, littéralement, c'est une sorte de freeze chronologique qui va de gauche à droite, avec en arrière-plan les images d'archives qu'on a sélectionnées. À chaque fois, il y en a genre une cinquantaine, soixantaine dans les deux jeux. Moi, je sais pas, j'aime bien me dire que Arte peut défendre ce genre de jeux vidéo et que ça fait sens. Tu vois qu'il y a des jeux vidéo qui soient dans leur catalogue, mais je pense qu'il ne faut pas réduire Arte à ce genre d'aspect documentaire. Ils aiment aussi essayer plein de trucs, hein. Leur dernière production, ils sont quand même très diversifiés.
Pour passer à la suite, au futur dans le domaine de la création, actuellement tu travailles sur un nouveau projet de jeu qui est intitulé The Tiny's World, qui a été annoncé il y a peu de temps. Est-ce que tu peux nous dire de quoi ça parle, avec qui tu travailles, et si jamais le jeu sera ou pas dans la lignée de tes productions précédentes? Dans le sens où, comme on l'a évoqué, voilà, il y avait une certaine portée documentaire dans tes réalisations précédentes. Est-ce que c'est quelque chose dont tu vas te détacher, ou tu vas continuer à essayer d'apporter un peu d'infos à droite à gauche, comme tu l'as fait jusqu'à présent?
Déjà, pour parler du coproducteur, c'est encore avec Arte. Donc okay. il est probable qu'il y ait des fiches dans ce jeu-là. Non, c'est un jeu que je développe cette fois-ci avec une nouvelle boîte de production qui s'appelle Darjeeling, et qui sont basés à Montreuil, et qui eux aussi ont commencé à développer du jeu vidéo plus ou moins en même temps que moi avec Type Raider, donc en 2013, je dirais, quelque chose comme ça. C'est eux qui avaient fait Homo Machina pour Arte. Ouais. Et donc je développe mon troisième jeu chez eux, donc ça se passe super bien pour l'instant, parce qu'on est à la phase de pré-prod, enfin on entame la phase de pré-prod, donc on a eu un go d'Arte qui nous a validé tout ça en interne. On a passé l'étape du CNC a priori, et qui devrait nous financer aussi cette phase de développement qui va nous permettre de faire une vertical slice pour la fin février, je crois. Donc c'est un jeu qui va parler en fait de nature, d'un petit peuple qui fait à peine quelques centimètres, qui ressemble à des petits oiseaux avec des chapeaux de gnomes. On parlait des contes d'ailleurs au tout début de l'émission. C'est vachement inspiré des contes des gnomes, notamment aussi un peu du folklore japonais. Donc on va créer un petit monde un peu miniature à hauteur de Tiny's. C'est des petits personnages comme ça qui s'appellent les Tiny's. Et qui vont découvrir un monde un peu post-humain. Pas forcément post-apo comme on l'a vu dans les jeux vidéo, mais en tout cas où il y a eu une présence humaine qui a été abandonnée. On ne sait pas ce qui s'est trop passé, mais en tout cas les Tiny's doivent refaire une petite civilisation par-dessus ça. Donc on essaie de mettre en phase des gameplays d'entraide, de coopération, d'essayer de faire en sorte qu'on s'occupe d'un village et que tout le monde soit heureux là-dedans. Donc on est au tout début, mais c'est assez cool, on a une bonne équipe là.
Ok, donc une sorte de petit jeu de gestion nature-friendly, quoi.
Ouais, il y aurait un peu de gestion, il y aurait un petit peu d'aventure, un peu de puzzle, il y aurait des histoires, il y aurait des flashbacks, des souvenirs au coin du feu, des trucs comme ça. Donc on est en train de mettre ça en place. C'est vraiment le tout début, on bosse avec deux super artistes qui vont nous faire tout ça. Il y a des gens en anime déjà qui vont commencer à faire des belles animes, parce qu'il y a, en fait, cette boîte de production fait aussi elle pas mal d'animations en parallèle. Donc il y a aussi un petit savoir-faire interne qui va nous permettre de step up, enfin d'avoir une petite qualité. J'aimerais bien que le jeu ressemble à un petit dessin animé quand tu le regardes, quoi.
Pour finir très rapidement sur ton activité créatrice, parce que le temps avance, cette activité créatrice ne se limite pas forcément au seul domaine du jeu vidéo et du numérique, puisque tu restaures également des consoles portables dont tu tires des versions custom, et tu pratiques aussi la sculpture sur bois. Et est-ce que tu peux nous dire en quelques mots quelle place tu accordes à ces activités créatives plus traditionnelles, disons? Est-ce que c'est une soupape par rapport à ton travail dans le champ du jeu vidéo, ou au contraire une sorte de prolongement de ton activité professionnelle, puisque le monde du jeu vidéo n'est jamais loin, puisque tu restaures des consoles, et quand tu sculptes sur bois, t'as lancé un projet par exemple de Korogu inspiré de Breath of the Wild, etc. Donc comment tu situes ça? Comment ça se conjugue avec ton activité pro?
Ben, c'est là pour l'instant, c'est un peu en parallèle, c'est un peu même en arrière-plan parce que là, la rentrée, elle est un peu chargée, pour rien vous cacher. Mais je fais ça un peu sur le temps libre et c'était un moyen aussi pour moi de pouvoir conjuguer à la fois une sorte de besoin de faire des collections de consoles de jeux vidéo que j'ai pas eu dans mon enfance et que là, je peux me permettre d'acheter. Et le petit côté restauration, customisation aussi qui permet de faire pas mal de pièces uniques en termes de look. Donc tu peux faire des combinaisons de couleurs qui n'ont jamais été faites à l'époque et tout. Je trouve ça assez chouette de pouvoir s'exprimer là-dedans. Après, c'est un hobby, hein. C'est pas forcément un truc qui me permet d'en vivre. Mais il y a pas mal de gens que je suis et c'est une communauté qui est assez cool, je trouve, et hyper créative, justement, la communauté des gens qui font de la restauration et qui font de la custom de consoles. Et à côté de ça, ouais, le projet à Bali, c'est un projet que moi j'ai initié il y a 4 ans, donc c'est pas moi qui ai fait la sculpture sur bois. J'ai fait un stage un jour de sculpture sur bois là-bas, parce que j'étais en train de finir un projet sur. J'étais en train de finir Vandals et je crois que j'en avais vraiment marre d'être en France. Donc je me suis barré là-bas et j'ai réussi à, comme ça, en lançant l'idée de faire des korongus en bois, j'ai vu que des gens avaient envie d'en acheter. J'ai formé des gens un peu au design que je voulais là-bas et depuis 4 ans, ça continue à tourner. Et on livre comme ça sur Etsy et ça marche pas mal. Il y a des histoires pas possibles avec des pirates chinois qui ont volé nos photos, qui les ont mis sur AliExpress et qui ont commencé à faire de la publicité Facebook. Donc ça a rapporté de la visibilité notre truc. Donc on a eu des explosions de commandes. Ça a fait n'importe quoi. J'essaie de contrôler tout ça à distance, mais pour l'instant, j'ai pas besoin d'y retourner. Donc je suis plutôt content que là-bas, ça soit tout en autonomie et que ça puisse faire vivre des gens de leur savoir-faire. Parce que comme ils ont beaucoup de rentrées d'argent de part du tourisme. Avec le Covid, là, ça n'a pas été facile. Donc, je suis content que ce genre de projet puisse exister en parallèle. C'est vraiment très lointain, mais ça existe. Après, c'est toujours un moyen, je pense, de pouvoir un peu faire des breaks avec le jeu vidéo. C'est un peu faire que de l'ordinateur toute la journée. Je pense que vous savez de quoi je parle. Hein. Ouais. Que ce soit dans la vidéoproduction ou dans l'écriture ou dans plein de choses, on est un peu contraint des fois à avoir la tête dans le guidon. Donc, quand t'as une activité à côté, c'est toujours cool. Je me suis acheté un kit de broderie, là, il n'y a pas longtemps. Je vais m'y mettre.
Excellent choix. et pour finir sur le projet des korongus, je recommande le petit making-of que tu avais posté sur YouTube, sur lequel je suis tombé, et qui est vraiment, vraiment super intéressant pour voir la façon dont ces petites figurines sont réalisées. Il est vraiment très intéressant, et je pense qu'on pourra mettre le lien sur la page de Radio Campus Paris. Parlons maintenant un peu de Jour de Play, passons au deuxième volet de l'entretien. Et on va commencer par le début, si tu veux bien, à savoir, avec cette question, comment et à quel moment est né le projet de Jour de Play et à quel point le contexte de la pandémie a pu jouer à la fois dans son élaboration et dans sa mise en œuvre. Puisque je rappelle que l'épisode pilote de Jour de Play a été diffusé à l'automne 2020 et que l'émission a ensuite véritablement démarré en mars 2021. Donc beaucoup de choses se sont faites alors qu'on était complètement confinés.
Ben, le Jour de Play, c'est un projet qui est effectivement né pendant le confinement. Bon, alors encore une fois, c'est pas né forcément de nulle part. J'avais quand même à la fois des contacts et des envies qui étaient un peu cachées, sous-jacentes à tout ça. Mais pour la timeline, faut imaginer genre le confinement numéro 1. Donc j'imagine avril de l'année dernière, il y a un an et demi. Je sais plus combien de temps, mais il y a un an et demi. Donc confinement numéro 1, où en fait j'étais chez moi. Moi j'attendais de pouvoir déménager avec mes cartons à Lyon où je m'installais. Et il y a eu le confinement qui s'est mis, donc ça m'a bloqué dans mon déménagement. Je me suis retrouvé avec mon ordi à attendre un peu ce qui se passe, quelque chose. Et je me suis un peu motivé. J'avais une petite bande de potes, on a un Slack en commun. On se donne juste, on s'organise les festivals, on se donne des liens et compagnie. Et en fait, comme c'est tous des devs, je m'étais dit, ok, pourquoi pas faire un peu un live tous en commun, un peu comme avait organisé, je pense, Citram, t'avais fait un truc comme ça qui était le 40 stream. J'avais dû voir passer des tweets comme ça où il y avait plusieurs initiatives qui s'étaient lancées autour de ça et je trouvais ça assez cool. Et donc je m'étais dit, bon, ok, pourquoi pas faire ça avec les copains. On a lancé ça, on s'est trouvé une dizaine, je crois, une après-midi. On a papoté pendant 2 heures sur Twitch. Il y avait peut-être, je sais pas, genre 15-20 personnes, même pas. Mais il se trouve que dans les 15-20 personnes, il y a quelqu'un avec qui je bosse chez Arte qui est passé comme ça parce qu'il a vu le tweet, qui s'est rendu compte qu'il y avait des gens qui parlaient de jeux vidéo de manière un peu différente, peut-être, en tout cas, une approche que eux a trouvé intéressante, et il m'a envoyé un DM pour me dire « Est-ce que tu peux réfléchir à un truc ?» Un format Twitch, quoi. Un format qui parlerait de jeux vidéo sur Twitch. Donc ça, c'est la phase 1. confinement, et à partir de là, je commence à envoyer des contacts avec tous les gens à qui je pense, donc des gens qui sont sur YouTube, dont je fais le travail depuis super longtemps, donc la développeuse du dimanche, Hugo de Game Next Door, il y avait bien sûr Sophia de Game Spectrum, Olbius qui était là aussi, donc je commence à rassembler comme ça une micro-équipe. Pendant l'été, on prépare comme ça le pilote qui a été diffusé en octobre, donc ça allait assez vite, on a passé même pas 4-5 mois à préparer ça. On diffuse le pilote et le temps que ça se valide en interne, qu'on complète l'équipe et qu'on affine la proposition, on se retrouve à lancer le projet le 3 mars de cette année, je crois. Le premier live de Twitch, enfin de d'Arte sur Twitch avec Jour de Play. Donc c'était super cool, on a trouvé un moyen d'alterner avec Camille, maintenant c'est elle qui présente l'émission une fois sur deux. On a rempli un pôle de 6 chroniques heureuses, donc... la développeuse du dimanche, Hugo de Game Next Door, Sophia de Game Spectrum, il y avait Marine Mac aussi qui est passée, on avait fait venir Dorian Chandelier, il y avait Maudit qui était intervenu aussi, plein de monde dont j'oublie, mais on avait fait effectivement venir Muriel Tramis qui était venu parler de son travail, notamment d'Adibou. On aurait voulu la faire venir parler beaucoup plus longtemps, mais on n'a pas eu le temps, malheureusement. Mais voilà, c'était une bonne expérience, première saison, qu'on a lancé comme ça, un peu de nulle part, mais c'était... moi qui étais, en fait, je crois, au bon moment, qui avait les bons contacts avec les bons youtubeurs que, en fait, je côtoyais en festival depuis quelques années. J'avais filé des coups de main sur un peu d'animation, motion design. Voilà, c'était des contacts de longue date qui se sont un peu concrétisés à ce moment-là.
Tu l'as évoqué, Jour de Play se distingue assez nettement de ce qu'on trouve en général sur Twitch en matière de contenu consacré aux jeux vidéo. Est-ce que c'était une intention de ta part, dès le début, de faire bouger les lignes et de proposer un autre regard sur le jeu vidéo ? Est-ce que un regard peut-être plus engagé, plus politique ? Ou est-ce que ça s'est fait petit à petit, au contact d'Arte, et surtout au contact des chroniqueuses et chroniqueurs que tu as invités ?
T'as répondu un peu à la question. C'est effectivement, ça s'est fait au contact des personnes qu'on a contactées pour participer à l'émission, mais aussi je pense que c'était une émission comme nous on la voyait. Enfin, moi j'écoutais beaucoup de podcasts à l'époque, j'imagine que j'aurais écouté votre podcast si 5 ans plus tôt et que ça m'aurait inspiré pour faire Jour de Play. En fait, j'ai consommé pas mal de contenu où tu voyais les gens qui échangeaient entre eux, il y avait une super ambiance, t'avais l'impression d'écouter une sorte de bande et tu t'y attachais, enfin, genre le podcast ZQSD par exemple, ou des trucs comme ça, où il y avait aussi celui qui s'appelait Je Game Moi Non Plus, enfin il y en avait comme ça pas mal qui m'ont un peu inspiré tout du long, tu vois, genre pendant les 4-5 années avant, et au moment de faire Jour de Play, j'ai l'impression que j'ai essayé, enfin, il y avait la volonté d'aller voir des gens qui se connaissaient déjà entre eux pour recréer ce sentiment de petite bande et de gens qui se fréquentent déjà, parce que ça crée de la complicité et je pense que c'est ça qui est important aussi sur Twitch. En tout cas, c'était ma manière de voir les choses quand j'ai créé la team numéro 1. Et depuis, on a augmenté le nombre de participants et de participantes, donc c'est vachement cool. Maintenant, tout le monde se connaît et collabore ensemble, c'est assez marrant.
Étant à l'origine du projet, tu as assumé un épisode sur le rôle de présentateur de l'émission, en alternance avec Camille de Osmosis que tu as évoqué. Comment s'est déroulé cet exercice pour toi ? Parce que je crois pas que tu avais auparavant d'expérience dans ce domaine.
Alors non, à part le stream que j'avais fait pendant le confinement, où c'était fait avec mon ordinateur, ça captait le son avec mes haut-parleurs, c'était une qualité horrible. Mais non, j'avais jamais fait ça. Là, le pilote, le tout premier épisode, c'était dur. Excusez-moi, mon chat qui vient me faire une intervention. Donc je disais, le tout premier épisode, c'était effectivement pas évident. Après, je pense que tu t'y fais. Je sais pas, je pense que peut-être vous devez avoir ce feeling quand vous faites des chroniques et tout. C'est un truc qu'on apprend à faire. Heureusement, c'est pas moi qui fais le contenu. Et tout le truc, toutes les choses importantes et intéressantes et intelligentes, c'est pas moi qui allais dire. Moi, je suis peut-être là pour faire des blagues et passer des plats, tu vois. Mais il faut quand même genre avoir pas mal de vues d'ensemble sur l'émission. Il faut pouvoir discuter du conducteur avec Arte en amont. Il faut pouvoir briefer tout le monde sur les interactions qu'ont les chroniqueurs entre eux. Enfin, il y a pas mal de choses qui sont nouvelles pour moi. C'est un truc de rédaction en chef qu'on fait avec Camille. On essaie d'organiser ça au mieux comme qu'on peut. Mais ça se passe bien. Jusqu'à présent, ça se passe très très bien. On a la chance d'être hyper bien entouré et tous les gens qui participent sont quand même genre... sont vraiment hyper doués quoi, et attentionnés, c'est cool.
oui, c'est des bonnes conditions pour se lancer dans la dans l'animation d'émission, quoi.
Carrément.
Pour finir, et on finira l'entretien là-dessus, Jour de Play va revenir pour une deuxième saison suite au succès de la première, ce qui est une nouvelle parfaitement réjouissante. Mais est-ce qu'on va être exactement sur la même formule ou est-ce qu'on peut s'attendre à voir changer certaines choses dans cette saison 2, aussi bien en termes de casting que de contenu ou de format? Et du coup, est-ce que toi, tu continueras à présenter l'émission pour les épisodes à venir?
Et je vais présenter le premier épisode, ensuite c'est Camille, on va faire ça en alternance, donc a priori le jour où sera diffusé cet épisode, ça devrait être officiel, mais on revient pour une saison 2, on revient une semaine sur deux dans l'émission Jour de Play. On a une surprise aussi qui va arriver le jour du 6 octobre, on vous la dit pas, mais Jour de Play sera vachement plus présent sur Twitch et ça c'est cool. Donc par contre l'émission Jour de Play, comme vous l'avez vu la première saison, elle évolue un tout petit peu, mais on va dire c'est un peu à la marge. On garde quand même l'idée d'avoir trois chroniqueurs, trois chroniqueuses qui interviennent par émission. Des fois ils laissent la place à un invité ou une invitée, mais on a déjà des invités qui ont été sélectionnés, on a genre Nathalie Kayane par exemple ou L236. Donc voilà, il y a des chroniqueurs, il y a des chroniqueuses, chroniqueurs qui étaient dans la saison 1, qui étaient venus en guest et qui en fait vont revenir, donc ça c'est aussi super cool. Et on fait aussi un peu évoluer la dernière partie du jeu textuel à la base. On avait une partie qui était entièrement faite en Twine qui est un moteur de jeu pour faire des aventures. Et on avait fait une sorte d'aventure collaborative où le chat participait, le chat de Twitch participait, votait pour faire des décisions sur l'aventure. Et là, dans la saison 2, on fait un peu évoluer ce système en gardant un peu cette architecture et cette interactivité et cette participation du chat. On va vers un côté un peu plus jeu de rôle. Donc, je vous en dis pas plus parce qu'il faudra regarder ça, il faudra regarder le résultat. C'est en fin d'émission, c'est après les trois chroniques. Il y a un petit moment calme où on fait du jeu de rôle et ça se termine à 23h.
Super. Mais écoute, on regardera ça avec attention. On retrouve Cosmo avec les questions de l'équipe juste après une seconde petite pause musicale soumise par Cosmo lui-même. Il s'agit de Cave Dig, composé par Sam Webster pour Grindstone, sorti en 2019. Vous écoutez 1h et des pixels sur Radio Campus Paris et nous retrouvons Cosmographique pour la suite de l'entretien. Mais avant de laisser la parole aux autres membres de l'équipe, petite question concernant cette musique, Cosmo. T'as un rapport particulier avec Grindstone ou pourquoi le choix de cette musique?
Bah juste qu'elle est très très cool et que je me rappelle avoir un peu joué au jeu mais avoir beaucoup plus écouté sa BO. Je crois que ça doit être Gotos qui m'a fait découvrir ça dans son émission. Ou un truc comme ça. Et une fois que tu tombes dans cet album, qui est vraiment très lofi, très cool, qui passe très bien en mode vacances. Moi, en tout cas, il me rappelle une période très particulière où j'étais en vacances. Donc, j'ai décidé de le choisir comme ça. Mais écoutez l'album entier, il est vraiment chouette.
En tout cas, c'est un jeu qui a l'air un peu particulier. Enfin, je connaissais pas, et du coup, je suis allé jeter un œil. Et ça m'a évoqué, du coup, un croisement entre... comment dire Candy Crush et Crypt of the Necrodancer, un petit peu. Il y avait un côté rythmique avec des lignes d'ennemis à tuer d'un seul coup, des trucs comme ça. Ça a l'air un peu bizarre niveau gameplay. Enfin, un peu bizarre, un peu unique niveau gameplay, non ?
Ouais, moi j'ai pas l'habitude de jouer à ces jeux-là, mais c'est un jeu où tu dois juste tracer des lignes et t'as des ennemis de couleur et il faut faire des combinaisons et essayer de sortir de la zone en un maximum de tours. Et c'est assez cool et surtout visuellement, le feeling il est vraiment très, très agréable. Je sais que Ash, toi, tu y as joué un peu, tu disais.
Ouais, c'est ça, c'est un de ces jeux assez simples, mais qui a ces puzzle games assez simples, mais qui a un fil très très cool. Et ouais, la progression était appelante, donc je n'y ai pas énormément accroché. Mais clairement, j'y ai passé une ou deux heures sur la première session, parce que ça accroche vraiment bien.
Maintenant, c'est au tour des autres chroniqueurs et chroniqueuses de prendre la parole pour éventuellement questionner Cosmo sur ses projets et son travail. Qui veut se lancer en premier ou en première ?
Alors moi, j'ai juste deux petites remarques. La première, c'est que pour mon ego, avoir entendu qu'il y a eu le 40 stream et après il y a eu le jour de play, voilà, je le redis, voilà, ça me fait plaisir. Et ensuite, pour l'ego de Cosmo, j'ai vu passer une photo de tes Korogu avec Eiji Aonuma.
Ah oui, longue histoire, ouais.
Comment c'est arrivé ? Comment c'est arrivé jusqu'à lui ?
C'était dans l'enchaînement de mon premier voyage à Bali. J'avais décidé d'aller au Japon ensuite. Et en étant au Japon, j'avais rencontré pas mal de Français, notamment Anne Ferrero là-bas, qui m'avait. C'était au moment du Tokyo Game Show, qui m'avait fait rencontrer pas mal de gens, notamment des Américains qui ont fondé des studios là-bas, notamment Jake Kasdal, qui a fondé un studio là-bas, il y a une dizaine ou quinzaine d'années, et qui m'a dit: ouais, mais moi je connais Onuma et tout, t'inquiète et tout, pas de problème. Et j'avais un Korogu avec moi que j'avais ramené de Bali, et en sachant que je voulais le donner à quelqu'un de Nintendo, et il m'a dit: ouais, t'inquiète, je lui filerai. Donc je l'ai laissé sur une étagère dans son studio pendant peut-être 6 mois ou 8 mois. Et un jour, je reçois un DM où il m'envoie une photo de Onuma légèrement éméché, je pense, en soirée, avec mon Korogu, avec un énorme smile. Donc maintenant, je me dis qu'il y a un des Korogu comme ça qui est sur une étagère chez Nintendo ou chez lui. C'est cool. Mais c'est une vieille histoire. T'as vu passer le tweet, mais c'est une photo qui a 5 ans maintenant.
Mais bravo. Bravo quand même.
Il m'est arrivé d'autres histoires pas possibles. Je ne vous ai pas raconté l'histoire où je me suis retrouvé invité à l'E3 par Ubisoft. Mm-mm. Vous n'avez pas entendu cette histoire avec le faux leak d'Assassin's Creed qui était sorti de Assassin's Creed Origins, qui était sorti sur Twitter, et j'avais fait un tutoriel sur Twitter en expliquant comment faire un faux leak. Donc prendre un logo Assassin's Creed, prendre une vidéo en CGI d'Egypte, coller, faire une animation, mettre des petits glitchs et filmer ça dans un cinéma avec une caméra tremblante et le mettre sur YouTube. Et j'avais fait un tutoriel entier sur Twitter et j'avais dit bah, on va attendre ce qui se passe. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les gens ont commencé à voir la vidéo. Il y a eu des threads qui ont été ouverts sur Reddit pour essayer de faire des théories. Il y a des YouTubers qui ont repris l'info, qui ont fait des théories. Il y a des sites de news qui ont balancé l'info sans la vérifier. Il y a Gameblog qui a fait un article complet pour dire que c'était leaké, que c'était telle ère de l'Égypte et qu'on allait voir tout en camon, c'était sûr, machin et tout. Et pour qu'au final, il y a des gens sur Twitter qui disent: mais vous avez pas vu le tweet, en fait, vous êtes nuls, vous avez pas vu que c'était un hoax, quoi. Et au final, à la toute fin, via un contact qui avait parlé du projet à un mec du BI, machin, je reçois un DM, une réponse du directeur créatif d'Assassin's Creed qui me dit: oh, est-ce que tu veux pas venir la semaine prochaine à l'E3 pour tester le vrai jeu, parce que en fait, il existe ce jeu. Il n'était pas encore annoncé, mais il existait. Donc, c'était assez marrant. Je me suis retrouvé là-bas comme un couillon avec un badge offert par Ubisoft au milieu des influenceurs, alors que j'avais rien à faire là. C'était assez drôle. Mais c'était une bonne expérience. J'avais passé du temps avec les équipes d'Ubi. C'était cool.
C'est une histoire hyper cool. En vrai, c'est très très cool.
Donc, la réputation des leaks d'Ubisoft, en fait, ça vient de toi. Je vois.
Non, bah justement, je pense qu'ils ont bien joué, c'est-à-dire qu'ils ont déjà, ils avaient cet historique de jeux leakés dans tous les sens, et en répondant: ah, on a adoré ton tutoriel de faux leak, viens, ils pouvaient que s'en sortir gagnant. Ça leur coûte quoi, 3000 balles de faire venir quelqu'un à l'autre bout du monde et de lui payer un hôtel qui est de toute façon réservé parce qu'il y a tous les gens de Just Dance, tous les fans de Just Dance du monde entier qui vont être invités en tant qu'influenceurs, ça leur fait aucune différence. Donc ils l'ont bien joué. Mais c'est un peu cynique quand même. Moi j'ai kiffé, j'ai passé une bonne soirée.
Du coup, tu avais parlé de vouloir faire quelque chose d'un peu différent avec Jour de Play, notamment de reprendre cette ambiance podcast, etc. Est-ce que il y avait des... Et effectivement, quand on voit rien que le line-up d'invités, chacun a... on sent que chacun a vraiment un angle particulier sur le jeu vidéo qu'il avait développé ou qu'il ou elle avait développé auparavant et dans ses travaux à côté. Est-ce qu'il y avait un axe particulier pour faire se parler du jeu vidéo différent? Et est-ce qu'après une saison, t'es content de ce qui s'est passé, etc. De ce qui s'est fait sur l'année?
Ouais, il y avait pour ce qui est de l'axe, à partir du moment où tu, par exemple, il y a Camille d'Osmosis qui est venue en tant que co-redac chef, elle est arrivée avec ses contacts, avec ses idées, avec ses suggestions. Donc on a fait évoluer l'axe de base qui était comme je te l'ai dit, c'était du podcast, c'était une bande de potes qui parlent du jeu vidéo comme on aimerait qu'on nous en parle, pour reprendre les mots de Hugo de Game Next Door qui a participé au projet. Et sur cette saison 1, je suis super content parce qu'il y a quand même des sujets dont je voulais qu'on parle et qui ont été abordés. Il y en a un qui me tenait à cœur, c'était le contrôleur alternatif, mais il y en a d'autres et je sais qu'il y a des sujets qu'on a abordés qui ont tenu à cœur à pas mal de gens aussi. Donc ça a résonné comme ça chez pas mal de personnes différentes et je suis assez content de ça en fait, de voir qu'il y a des gens qui ont à la fois découvert des choses et à la fois des gens qui étaient contents qu'on parle de certains trucs. Et on a une liste de choses qu'on doit aborder maintenant encore qui est assez longue. Mais ouais, je suis plutôt content de ça. Après, c'est toujours un peu difficile d'avoir à la fois une chaîne de télé qui va te dire « Ok, nous on veut parler de jeux vidéo, mais à la fois un peu de manière accessible parce qu'on est Arte et qu'on n'est pas Game One, tu vois ». Donc on peut pas sortir les anglicismes comme ça, on peut pas prendre des choses pour acquis que tout le monde connaît chez nous, mais en fait non, il y a des gens qui connaissent pas, donc il faut les prendre par la main. Et cette envie de vouloir faire un truc qui nous fait kiffer nous, quoi, tu vois. Donc on est un peu entre les deux, quoi. En tout cas le rôle de rédac chef qu'on a avec Camille, c'est de jongler entre les deux, de briefer tout le monde, d'expliquer à Arte et à la fois de demander à nos autrices d'expliquer aussi un petit peu plus, quoi. Donc je suis content qu'on arrive aussi à être accessible pour un public qui connaît pas forcément le jeu vidéo et qui pourrait le découvrir par là, quoi.
Lise, est-ce que tu veux prendre la parole?
Ouais, je me demandais du coup, est-ce que dans les phases de création ou de développement de tes jeux, est-ce qu'il y a une étape particulière que tu préfères ou qui représente quelque chose de particulier pour toi?
Je dirais, je pense que c'est peut-être l'étape la préférée de tout le monde, c'est celle du prototypage. C'est celle où tu as encore un peu les mains libres pour faire... Il y a prototypage, moi, comme je le vois, c'est qu'on a, là, techniquement, on a du budget pour quelques mois pour essayer des choses sans se prendre trop la tête, tu vois. On a des ressources pour développer, pour essayer des choses et se dire, OK, ça marche pas, ça, on l'a développé, on le jette, ça, il faut absolument le développer, il nous le faut, il faut qu'on le teste tout de suite. Donc, la partie prototype, c'est assez cool, surtout que je bosse avec un dev qui est super, donc ça va super vite. Après, la prod... Je sais pas de souvenirs, je sais que c'est jamais des moments où genre il y a quand même une sorte de routine et de moments où tu travailles beaucoup tard, surtout quand c'est ton jeu, tu te mets pas forcément de barrière. Donc je dirais c'est pas forcément le meilleur souvenir, la partie prod. Et la fin de prod, n'en parlons pas, mais j'essaie de savoir prendre du recul et de lâcher un peu le lest.
Merci beaucoup pour toutes ces réponses. On a hâte de voir ce que vont donner tous tes projets, aussi bien en termes de jeux vidéo que du côté de Jour de Play. Suite à cet entretien avec Osmo, nous retrouvons maintenant Ash pour sa chronique. Ash, la parole est à toi.
Pour ouvrir cette série de chroniques, j'aimerais qu'on se pose une question. Qu'est-ce qu'il y a précisément de colonialiste dans Far Cry? Est-ce que c'est A, le fait que la série utilise de façon répétée des pays du tiers-monde pour en faire des immenses terrains de jeu exotisants destinés à la consommation des joueurs occidentaux, présentant parfois des versions au mieux très caricaturales des problèmes politiques de ces pays et qui effacent convenablement l'impérialisme américain? Ou est-ce que c'est B, le fait que ces jeux AAA soient de plus en plus produits en délocalisant la création des assets, la quality assurance, etc. dans ces mêmes pays du tiers-monde, où la main-d'œuvre est non seulement moins chère, mais où il est en plus facile d'imposer des conditions de travail invivables aux employés. Et en plus, que ces jeux soient imprimés et lus sur des disques et des consoles également produites dans le tiers-monde, dans des conditions aussi inacceptables. En bref, est-ce que c'est la représentation ou les réalités? Vous allez me répondre, et à raison, les deux. Et surtout les deux ensemble. C'est le fait qu'une situation de domination mondiale, au pluriel, enchevêtrée, produise ces représentations. C'est la matérialité des relations de race, qu'explore par exemple Mehdi Derfoufi dans Racisme et jeux vidéo. Mais c'est pas pour autant que c'est symétrique. Si le prochain Far Cry sortait d'un coup de sa manche une représentation rigoureuse, respectueuse, impeccable, il n'en serait pas grand-chose d'autre qu'un jeu de plus dans un monde capitaliste, patriarcal et colonial. Et s'il fera peut-être pas de mal, il ne changera concrètement rien à cette situation. Maintenant, prenons l'inverse. Si on arrivait à lancer un mouvement qui remettrait en cause, qui ferait vaciller toutes ces dominations et lancerait une transformation profonde, Far Cry ne serait plus vraiment problématique, même cette grosse bouse de fétichisation qu'est Far Cry 3 serait juste un jeu de plus. Bon, il perdrait au passage sûrement beaucoup de sa saveur aux yeux de nous occidentaux, tant nos relations humaines seraient profondément changées. Il traînerait dans un coin comme une simple relique d'un passé honteux. Surtout, ça fait des années qu'on voit des gens se battre pour changer ces représentations pour des résultats qui sont bien présents mais qui restent très maigres, parce que chaque mouvement se heurte à une chaîne hiérarchique sans fin qui édulcore inlassablement chaque petit pas en avant. Au contraire, si les employés d'une boîte s'indignaient tout ensemble contre la situation des travailleuses dans les studios délocalisés ou celle des femmes et des minorités raciales et de genre autour d'eux, il leur suffirait d'arrêter de bosser, de faire grève jusqu'à ce que ça bouge. C'est quand on commence à se voir comme travailleuse qu'on commence à construire des solidarités et qu'on commence à voir notre puissance. Tout repose sur notre travail et c'est là qu'il y a notre force. Et c'est un mouvement qu'on commence à voir se faire à Activision Blizzard par exemple, ou qu'on essaye d'organiser en France dans les syndicats, et c'est un tournant important. Alors tout ça, ça semble un peu un poncif du grand syndicalisme lutte des classes, mais ça va au-delà. Ce terme de puissance, par exemple, je l'emprunte à Veronica Gajo, une des leaders du mouvement féministe en Argentine, qui a su lancer un immense mouvement de grève des femmes, et qui parle de la puissance féministe qui s'y est créée, justement en réalisant de la même façon que tout repose sur notre travail et que c'est notre force. Bref, non seulement agir sur nos réalités matérielles est plus utile, mais en plus c'est là où on a le levier le plus gros. Alors, nom de Dieu, pourquoi est-ce qu'on ne parle que des représentations? Aujourd'hui, les discussions progressistes dans le jeu vidéo sont souvent orientées, avant même d'avoir commencé, sur comment casser des stéréotypes, comment faire des jeux qui ont l'air moins coloniaux et moins patriarcaux. C'est pas quelque chose de mauvais en soi, c'est juste un discours petit bourgeois dont le principal souci, c'est d'échapper à la culpabilité de participer à ces dominations, plus que de changer les choses. Et qui ne s'intéressent aux luttes que dans la mesure où elles apportent quelque chose de frais et d'exotisant, d'orientalisant à leur quotidien de dev de jeux vidéo. Transformer ces réalités et faire cesser l'exploitation, ça devient secondaire. Ainsi, cette vision-là, elle infecte jusqu'à la façon d'envisager la représentation. Plutôt que de comprendre comment les relations de classe, de race, de sexe se font, et de chercher une représentation qui créerait un mouvement qui changera ces réalités, on voit ça comme une série de stéréotypes figés qu'il faudrait casser, on cherche une représentation qui s'extirpe de ces relations, qui nous permette de les oublier. On va le voir au cours de ces chroniques, c'est le résultat d'une immense dépolitisation du travail de penseureuses féministes, antiracistes, anticapitalistes du siècle dernier et du nôtre. Et plus concrètement, c'est pas ça qui aidera mes sœurs trans à la rue et en tôle. On a besoin, en tant que travailleuses, en tant que femmes, que minorités raciales et de genre, de retrouver cette compréhension, de retrouver comment construire cette force collective. Tout à l'heure, je disais un peu caricaturalement, on se met tout en grève et tout est réglé. Et je sais pertinemment que c'est pas quelque chose qui arrivera en claquant des doigts, que c'est une grande route remplie d'obstacles. Mais c'est là que réside notre puissance, qu'il faut la développer, et j'essaierai d'apporter des petites pierres à ça au cours de la saison.
Je suis quelqu'un d'assez, assez débile dans la vie, du coup je t'avoue que je comprends pas tout. Mais ce que j'entends et ce que je t'écoute dire, c'est un discours que je vois pas en fait sur le jeu vidéo ailleurs, très honnêtement. Enfin, pourtant je suis beaucoup sur Twitter et je suis beaucoup de personnes et de travailleuses, peut-être pas les bonnes personnes, je sais pas, mais c'est un discours qui personnellement me semble presque nouveau et qui est vraiment à développer, donc je suis vraiment très très content que tu sois là avec nous pour le faire, et voilà, je sais pas où je vais, c'est pas vraiment une question sur ta chronique, mais
merci beaucoup. Et ouais, c'est comme, enfin oui, voilà, c'est ce que j'essayais de dire un peu rapidement, mais c'est du concrètement, je viens surtout puiser dans d'autres mouvements qui existent déjà, mais c'est vrai qu'il y a eu Alors, enfin, ouais, je vais encore balancer des grands mots, mais dans l'institutionnalisation du féminisme des 50 dernières années, etc., etc., il y a beaucoup de la radicalité qui s'est perdue, et on se retrouve un peu avec ce côté, on voit le problème, mais on sait pas trop comment le régler, et c'est pour ça que j'essaye d'aller chercher un peu ça, ouais.
Du coup, juste pour préciser, là, c'était une chronique introductive, du coup, à tous ces... Toutes ces problématiques que tu soulèves. Donc ça, tu essaieras d'apporter des éléments de réponse et de compréhension dans les chroniques suivantes, si jamais j'ai bien compris ce que tu disais. Tu penses que c'est possible d'adopter un regard positif sur ces questions? Le changement est-il possible d'après ton point de vue?
C'est une très grande question. j'ai pas tant l'impression d'être pessimiste, et c'est pas du tout mon but. Genre, au contraire, peut-être que j'aurai le temps à un moment de développer un peu plus sur Blizzard, entre autres, parce que j'essaye de... on arrive à avoir quelques liens, etc., avec les gens qui sont là-bas, via les syndicats et tout. Il y a effectivement, enfin, pour moi, non, au contraire, pour moi, vraiment, on est dans un moment où il y a, enfin, justement, ce qu'on voit avec, je sais pas si vous avez vu ces comptes passés, mais A Better ABK, ou donc A Better Activision Blizzard King, ou A Better Ubisoft, il y a vraiment des groupes qui sont en train de se former et qui sont pas exactement des syndicats, parce que les syndicats, c'est quelque chose de très précis aux États-Unis, qui est pas vraiment la même chose que les syndicats en France. Mais qui justement vont dans cette voie de de s'organiser en tant que travailleurs, travailleuses, et de construire ces mouvements là et du coup, ouais, non, je pense que, enfin, oui, enfin, si je suis là, c'est que je pense clairement qu'on peut qu'il y a beaucoup de trucs intéressants qui se passent et que on peut pousser ça, ouais.
Oui, on a une période un petit peu charnière où des choses sont en train de se faire, où les gens, les travailleurs et travailleuses sont en train un peu de prendre la parole, d'occuper l'espace et d'imposer un peu leurs revendications, comme tu l'évoquais. Pour Blizzard notamment, voilà, il y a eu un événement, une sorte de sitting devant les locaux de Blizzard, etc. Donc c'est quelque chose qui se fait extrêmement rarement en plus là-bas. Donc oui, les lignes sont en train de bouger. Donc oui, on est plutôt dans une période d'après toi, où les positifs, dans le sens où les choses sont en train de se mouvoir?
Bah, pour moi, il y a une très grosse conscience qu'il y a des problèmes. On n'a pas vraiment réussi à construire encore les moyens d'en sortir. Est-ce que ça va se faire? Est-ce que ça va pas se faire? Bah, c'est un peu la question qui se pose maintenant. Et...
Après, c'est jeune, hein, on parle de... Pardon, je suis désolé, mais c'était des syndicats qui n'ont même pas 10 ou 20 ans, les syndicats de jeux vidéo en France, en tout cas.
Ouais, complètement. Enfin, oui, voilà, c'est exactement ça. Il y a à la fois tous les syndicats qui se créent en France et qui commencent à organiser... à s'organiser. Oui, pardon. Ouais, exactement. C'est encore quelque chose de très jeune.
Ouais, bah, quand on avait reçu, Noah Young, pour notre... deuxième émission, je crois, d'une heure et des pixels, donc ça commence à monter maintenant. Et ça faisait, il nous disait, ça, c'était les 2 ans du STJV. À ce moment-là, on était sur les 2 ans du STJV. Et pour nous, à l'heure où vous écoutez cette émission, ça doit faire un an et demi. Donc ouais, c'est effectivement super jeune, mais solidaire et là depuis plus longtemps que le STJV, par exemple. Est-ce qu'ils ont commencé à s'occuper du jeu vidéo? On part un peu sur un autre sujet, mais est-ce qu'ils ont commencé à s'occuper du jeu vidéo bien avant que le STJV arrive, ou quand le STJV arrive, ils se sont dit qu'effectivement, il y avait le jeu vidéo et des travailleurs et des travailleuses à défendre de ce côté-là?
C'est un peu des trucs qui sont arrivés en parallèle. En fait, il y avait déjà des gens du jeu vidéo qui étaient à Solidaire Informatique depuis assez longtemps. Mais il y avait effectivement, d'ailleurs, Ouais, je vais pas donner de trucs pré... enfin ouais, je vais pas donner de nom ou de trucs précis. Je sais qu'entre autres, ils étaient présents depuis assez longtemps à Blizzard, etc. Et en même temps, il n'y avait pas non plus. Enfin, on était vraiment considérés comme partie de l'informatique. Et il n'y avait pas un truc très spécifique aux jeux vidéo qui s'est créé. Et ça s'est créé. Enfin, le côté jeux vidéo s'est un peu développé. On a commencé à. Enfin. Je suis arrivé là-bas un peu après la création. Je suis arrivé à Solidaire un peu après la création du STJV, justement. Et c'était aussi un moment où Solidaire commençait à s'intéresser aux jeux vidéo, justement parce qu'il y avait déjà cette petite base de travailleurs qui réalisaient qu'il y avait quelque chose à importer, notamment bêtement parce que Solidaire, c'est un syndicat. Enfin, ouais, voilà, c'est un syndicat. Solidaire Informatique, surtout. C'est un syndicat qui est là depuis longtemps, qui. Syndique aussi des classes qui sont assez qui sont assez hautes parce que c'est les travailleurs de l'informatique, donc il y a du budget, donc il y avait une certaine, enfin il y avait pas mal de trucs à apporter au syndicalisme JV, enfin voilà, en collaborant aussi avec le STJV, etc.
Mais c'est effectivement, je crois, l'affaire Blizzard France qui fermait, qui avait un peu commencé à faire parler de ça, les affaires Quantic Dream aussi, dont on a commencé à entendre parler des syndicats, enfin On a commencé à entendre des syndicats prendre la parole au nom des travailleurs sur des affaires comme ça, mais c'est récent, quoi. Effectivement, comme tu dis, Alex, c'est 5 ans, 10 ans maximum, quoi. Donc, faut effectivement regarder ça de très près et puis prendre part si on a le temps, si on a la motivation.
Oui, de mémoire, il y avait aussi eu la grosse grève chez Eugène System.
Oui, c'était Eugène System aussi, je me rappelle de celle-là. T'as raison.
Merci beaucoup, c'était très intéressant et je suis très curieuse d'écouter les prochaines chroniques.
Donc ce sont sur ces remerciements unanimes envers toi, H, qu'on va passer maintenant au blind test qui est organisé ce mois-ci par Lys. Donc Lys, la parole est à toi. Sur quoi porte le blind test de ce mois-ci ?
Alors oui, j'ai l'honneur d'ouvrir le premier blind test de cette saison et comme on approche doucement, mais alors très doucement, de la période d'Halloween, j'ai choisi le thème « Avancée masquée ». Et donc, je vais vous présenter trois morceaux dont il va falloir faire tomber le masque. J'ai dit combien ?
Trois.
Non, pardon. Voici donc cinq morceaux dont il va falloir faire tomber le masque. Et on commence par un titre sorti en 2017.
Bioshock ?
Sexy Brutal. The Sexy Brutal. Je suis sûr que c'est The Sexy Brutal.
Oui, c'est ça, oui.
Yes !
Incroyable, Jean.
Donc c'est développé par Cavalli Game Studios et Tequila Works. On incarne plusieurs personnages en fait qui sont invités à passer la soirée dans un manoir qui est devenu casino. Et on va vite se rendre compte que quelque chose ne tourne pas rond dans ce jeu car on revit sans cesse la même journée. Et le but, c'est de sauver tous les invités masqués en résolvant une petite série d'énigmes pour révéler leur visage et découvrir le fin mot de l'histoire.
Si je peux me permettre une petite incise, pardon. Si jamais vous l'avez pas fait, c'est un jeu très chouette, assez drôle, avec une ambiance très particulière, un peu Cluedo, mais inversé. C'est assez chouette et la bande son est très très cool. Voilà.
Je suis pas très chouette d'énigmes, mais j'avais beaucoup aimé aussi et ça marchait très bien comme jeu.
On va rester sur une ambiance assez proche avec un jeu français qui est sorti en 2012.
Bon alors c'est pas Adieu.
2012.
Ça se passe aussi dans un manoir.
Ah, franchement, je vois pas du tout à l'aide.
C'est hyper dur.
Il y a un jeu en noir et blanc là, mais qui est peut-être 2012, mais dans un manoir, mais c'est pas celui-là peut-être.
C'est Dishonored qui est développé donc par Arkane Studio.
J'y avais pensé, mais.
C'est la musique en fait qui est diffusée pendant un bal, une séquence bal dans le jeu, un bal masqué dans lequel on s'infiltre du coup pour tuer l'organisatrice du bal, Lady Boyle.
Oh la honte.
Trop facile, ouais. J'y ai pas fait, mais vous auriez pu trouver quand même.
Alors, c'est tout cohérent. Tout le monde... Enfin, après, je sais pas les autres, mais j'arrête pas de vanter Arkane tout le temps, machin, partout, et là, genre, zéro pointé.
En plus, Jean, t'es en plein dans Deathloop.
Exactement, je suis dans Deathloop ces temps-ci, ouais. qui est très cool.
On part sur un titre un peu plus classique, mais iconique pour le thème Avancée masquée, et sorti en 2011.
Ah ouais, c'est un jeu américain.
Ça, c'est une BO de Hans Zimmer, ça.
C'est bien américain.
Oh!
Oui.
Ah, ça va pas revenir. Je connais.
T'as une réponse ou t'es en train de te faire assassiner?
Ah putain, je suis en train de faire un AVC. Ah non, je vois pas. Je connais les trucs qui fait. C'est Batman?
C'est ça, c'est Batman.
Ah, oh.
Bah, du coup, là, ça doit juste être Batman Arkham quelque chose, j'imagine.
C'est ça, c'est Batman Arkham City.
Ah, le point est accordé. Enfin, je sais pas, je dis ça, mais en vrai, je trouve ça déjà beau qu'il l'ait retrouvé. Donc.
Il y a des points en plus.
Donc, c'est développé par Rocksteady Studios et c'est édité par Warner Bros.
Et du côté de la musique, on se rapproche quand même beaucoup des films de Nolan et du thème de The Dark Knight, si je dis pas de bêtises, avec ces vocales-là.
Et le compositeur, c'est Nick Arundel. Je sais pas du tout s'il a travaillé sur d'autres jeux de ce type, mais en tout cas, on sent la bande-son qui est très inspirée des films, en effet. On enchaîne avec un jeu dans un style très différent qui est sorti l'année dernière.
Ah,
Persona 5,
Persona 5 The Royal,
du coup.
ou Strikers, là, n'importe lequel.
Non, c'est le Royal, c'est le
thème. Non, c'est ça, c'est bien Persona 5 et Deathloop Space Studio qui est sorti l'année dernière.
Je crois que c'est Ash qui a été la première là-dessus. Hein.
Yes.
Je m'attendais à ce qu'il y ait Persona 5 et je voulais faire la blague de le dire à chaque fois, et puis je me suis dit, ouais, non.
Et du coup, je vais rester dans les sorties récentes, avec cette fois un jeu qui est sorti cette année et qui a une proposition ludique bien particulière.
Route 89 ?
Non, mais c'est un peu dans le même style.
C'est pas 96 d'ailleurs ?
C'est 99 d'ailleurs. Ah.
Qu'est-ce que ça ?
Finally. 12 minutes
Non.
Non, même pas.
C'est l'introduction de Blind Drive, qui est développé par Lo-Fi People, c'est un studio israélien. Et c'est une comédie noire où le protagoniste, donc Donnie, se retrouve les yeux bandés à devoir conduire un véhicule en se laissant guider par la voix qu'on a entendue un petit peu déformée. Et il doit se fier uniquement au son autour de lui pour pouvoir se déplacer.
Elle était technique celle-là, genre.
Ouais. Ouais, on était en bordure de thème quand même. Hein. Avancé masqué.
Ah ouais, quand même. Hein.
Non, c'est vrai.
Ouais, bravo.
Ah bien joué. Non, c'est vrai que ça fait déjà ça fait plaisir d'avoir des jeux un petit peu plus récents. Mais non, bravo, non, de beaux extraits. Merci beaucoup, Lys. Si je peux me permettre, du coup, une suggestion en écho à Blind Drive, du coup, si je mets, c'est bien ça le titre, Lys.
Oui, c'est ça.
Ouais. Quelque chose de... Alors, c'est pas similaire, mais je trouve que ça joue un peu sur la même vibe. C'est Before Your Eyes, qui est sorti aussi cette année, d'ailleurs, qui se joue avec une caméra, et... enfin, une webcam, pardon, et où l'essentiel du gameplay est lié au clignement, de nos yeux. Et c'est comme ça qu'on interagit avec le jeu et qu'on fait avancer l'histoire. C'est assez déroutant, mais c'est hyper bien foutu, et en plus, l'histoire est très touchante et très belle, donc voilà, c'est... En plus de Blind Drive, si vous voulez des expériences un petit peu uniques côté jeu vidéo, n'hésitez pas, voilà, Before Your Eyes. Je sais pas si quelqu'un en a entendu parler.
Je l'ai fait, et c'était très sympa. Et ça m'a fait... Ça pousse un peu à pleurer, parce que ça te force à garder les yeux ouverts.
Oui.
Mais ça... Ça a aidé un petit peu, mais ça a bien marché comme histoire. Ouais.
Ouais, c'est un peu ça. Tu veux... Au début, tu veux absolument tout suivre, et donc du coup, tu te crispes les paupières, et en fait, tu te rends compte que tout l'intérêt, justement, de laisser filer, c'est trop beau. Trop bien. Et du coup, Lys, au niveau du tableau des scores, on termine sur quoi?
Alors, H à un point, Alexandre aussi, et toi aussi.
Égalité parfaite pour un premier épisode, c'est pas mal. La prochaine fois, le blind test sera à la charge de Alexandre. Et Alexandre, de quoi tu vas nous parler ?
Eh ben, écoute-moi, Jean, j'ai la liste des thèmes sous les yeux. Et il y en a un qui va être très clivant et qui me fait forcément, du coup, beaucoup plaisir. Et qui s'appelle « Heureusement que c'est beau, parce que c'est nul ».
Ah, ça, c'est très très intéressant comme thème. Et j'ai hâte de voir ce que tu vas nous sélectionner. Je pense qu'en effet, ça va être clivant. Il y aura de la baston. On va s'arrêter là-dessus. Vous avez écouté Une heure et des pixels, une émission réalisée par l'association Pixel Up et produite grâce aux subventions de l'université Sorbonne Nouvelle. Merci à Vincent, notre ancien chroniqueur, qui est toujours en charge de la sélection des morceaux des intermèdes musicaux. Un grand merci à Lazare, qui est à la technique et à la réalisation. Et bien sûr, merci à toi, Cosmo, qui nous a fait l'honneur et le plaisir de se joindre à nous pour cet épisode de rentrée.
Bah, merci à vous, c'était chouette de vous écouter pendant tout ce temps. Passez un bon moment.
Eh ben écoute, c'est parfait, c'est exactement ce qu'on espérait. Quant à nous, on vous donne rendez-vous exceptionnellement un samedi pour la prochaine émission, ce sera le 6 novembre à 17h30. Nous serons en compagnie de la chercheuse Charlotte Courtois et nous parlerons avec elle de jeux vidéo pornographiques. D'ici là, prenez soin de vous et on se quitte sur Your Contract Has Expired, composé par Pascal Michael Stiefel pour la BO de A Hat in Time, sortie en 2017.